VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Le Tchad se prépare à enterrer l'ancien président Idriss Déby Itno. Nous ferons le point avec notre correspondant. Sommet sur le climat. Le président Biden appelle le monde à l'action et dévoile un nouvel objectif américain de réduction des émissions polluantes. Incendie à l'ambassade de France à Bangui ce matin. La Russie annonce le retrait de ses troupes à la frontière ukrainienne. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. C'est demain qu'auront lieu à N'Djamena les obsèques du président Idriss Déby Itno, qui a été tué au combat contre des rebelles dans la région du Kanem, à environ 300 km de la capitale tchadienne. Les précisions de Bagassikoura.
Plusieurs chefs d'État sont attendus à cette cérémonie, notamment ceux des pays du Sahel. Mohamed Bazoum du Niger et Bandao du Mali, deux pays où les troupes tchadiennes sont impliquées dans la lutte contre les groupes djihadistes. Les chefs d'État du Burkina Faso, Roch Kabore, de Guinée, Alpha Condé seront là, de même que le président français Emmanuel Macron. Les pays de la sous-région tiennent ainsi à témoigner leur reconnaissance pour le rôle important joué par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, mais surtout au Sahel. Depuis le début de la crise malienne, le Tchad a déployé des troupes au nord Mali. Idriss Déby Itno a été remplacé à sa mort par Mahamat Idriss Déby, fils du défunt chef d'État. Ce dernier a dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement, prenant la tête d'une junte militaire qui concentre tous les pouvoirs officiellement pour diriger une transition de 18 mois vers des élections, je cite, « libres et démocratiques ». La France et l'Union européenne ont d'ores et déjà semblé accepter ce principe d'une transition militaire d'une durée limitée à condition qu'elle conduise à de nouvelles élections inclusives. Le Tchad est en effet un allié des Occidentaux contre les groupes djihadistes au Sahel.
Les États-Unis appellent à une transition pacifique et démocratique vers un gouvernement civil au Tchad après le décès du président Idriss Déby Itno. Ned Price, porte-parole du département d'État, qui avait précédemment appelé à une transition en conformité avec la constitution tchadienne, est revenu sur ce dossier lors de son point de presse de mercredi.
Nous continuons d'être aux côtés du peuple tchadien en cette période difficile. Nous condamnons les récentes violences et les pertes en vies humaines. Nous n'allons mettre aucune question au-dessus des autres. Et cela s'applique au Tchad, cela s'applique à notre politique étrangère à travers le monde. J'ai été très clair aujourd'hui que nous soutenons une transition pacifique et démocratique du pouvoir à un gouvernement civil. Évidemment, nous nous intéressons beaucoup au Tchad comme nous le faisons ailleurs. Dans ce cas, l'une des choses qui nous intéresse le plus et en lien avec nos valeurs, c'est de voir une transition du pouvoir vers un gouvernement civil. Nous surveillons cela de très près.
L'aide française au développement consacrée au Sahel a progressé plus lentement ces dernières années que les dépenses militaires de Paris dans cette région, déplore la Cour française des comptes dans un document rendu public ce jeudi, en suggérant par ailleurs un bilan d'étape de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Direction la République centrafricaine à présent. Un incendie s'est déclaré à l'ambassade de France à Bangui et les dégâts sont importants. Une partie du bâtiment de la chancellerie est partie en feu. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, a été maîtrisé après presque 2 heures de lutte. Plus de détails avec notre correspondant Freeman Sipila.
L'incendie, dont l'origine exacte n'est pas encore connue, s'est déclaré aux environs de 13h15 selon des témoins voisins de l'ambassade. Alertés, plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers centrafricains et de la MINUSCA sont mobilisés et parviennent à maîtriser le feu peu avant 15h30. Au stade actuel, il est difficile d'établir le bilan du drame, mais de visu, l'aile droite du bâtiment est fortement endommagée par les flammes. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et certaines autorités gouvernementales s'y sont rendus pour constater les dégâts et exprimer leur soutien aux diplomates français. Le maire de Bangui, Émile Glo Raymond Nakombo, est aussi intervenu avec son équipe.
C'est un dégât important, il faut le dire. C'est vraiment un dégât important. Le bureau qui abrite la chancellerie a pris un coup et je vous dis que c'est très important. Le bureau de l'ambassadeur est épargné, mais les autres services ont pris un bon coup. Nous voulons présenter au nom du peuple centrafricain notre compatie à la France, notamment à l'ambassade, à la chancellerie française. C'est un malheur, c'est un coup dur.
C'est la première fois qu'un tel incendie se déclare dans les locaux de la représentation française à Bangui. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Lutte contre la pandémie de coronavirus sur le continent. La firme pharmaceutique égyptienne Mina Pharma a annoncé un accord pour la production en Égypte de quelques 40 millions de doses par an du vaccin russe contre le coronavirus Sputnik V. Les vaccins ainsi produits devraient être disponibles au troisième trimestre de 2021. La plus grande société de logistique d'Afrique du Sud, Imperial Logistics, a remporté l'appel d'offres pour importer des vaccins Covid-19 pour les prochaines phases du programme de vaccination du pays. En Tunisie, les hôpitaux arrivent à saturation et sont à court de lits de soins intensifs face à une augmentation des cas de Covid-19, notamment dû au variant brésilien. C'est ce qu'a déclaré jeudi un membre du comité scientifique indépendant qui conseille le gouvernement, qui juge la situation critique. Le comité scientifique envisage de recommander une nouvelle fermeture des frontières pour éviter la propagation de ce variant. La mission de l'ONU en Libye a déclaré qu'elle était préoccupée par un arrêt de la production de pétrole à Harrigarport et par les indications d'arrêt de production à venir. Les Nations Unies soulignent qu'il incombe à toutes les parties dans le pays de veiller à ce que la National Oil Corporation reste indépendante et dotée de ressources suffisantes après que sa filiale Agoco ait interrompu sa production en raison d'un différend budgétaire. En Algérie, un islamologue de renom, Saïd Djabelkir, a été condamné à 3 ans de prison ferme pour offense aux préceptes de l'islam. À la sortie du tribunal, M. Djabelkir s'est dit surpris par la lourdeur du verdict et va faire appel. « On a le malheur de faire de la recherche en Algérie », a-t-il déclaré, « mais c'est un combat qui doit continuer pour la liberté de conscience, pour la liberté d'opinion et pour la liberté d'expression ». Il est notamment reproché à Saïd Djabelkir d'avoir écrit que le sacrifice du mouton, tradition musulmane, existait avant l'avènement de l'islam. Le chercheur a aussi critiqué certaines pratiques comme le mariage de filles prépubères dans certaines sociétés musulmanes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a appelé aujourd'hui le monde à l'action lors de son sommet sur le climat. Il a dévoilé un nouvel objectif américain de réduction des émissions polluantes applaudi par plusieurs dirigeants. Le point avec Eric Manirakiza.
Monsieur Biden a promis de réduire ses émissions de 50% à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. Nous devons passer à l'action, nous devons accélérer, a martelé le locataire de la Maison-Blanche. Il a rappelé à l'ouverture de cette réunion en visioconférence de 2 jours qu'aucun pays ne pouvait résoudre cette crise tout seul. Un à un, les dirigeants invités ont égrené leurs propres engagements et salué la nouvelle posture américaine. « Je suis ravi de voir que les États-Unis sont de retour pour travailler avec nous sur le climat », a lancé la chancelière allemande Angela Merkel. « Nous sommes tous très heureux du retour des États-Unis », a renchéri le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le chinois Xi Jinping s'est dit déterminé à travailler avec la communauté internationale et en particulier les États-Unis sur ce front. Le président français Emmanuel Macron a aussi lancé un appel à accélérer. Le président russe Vladimir Poutine a assuré que son pays, producteur majeur d'hydrocarbures, mettait en œuvre avec responsabilité ses obligations internationales. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est lui engagé à baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% à 45% d'ici 2030. Même le président brésilien Jair Bolsonaro s'est engagé à mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030. Cependant, la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a accusé les dirigeants mondiaux d'ignorer le changement climatique, les prévenant que les prochaines générations les jugeraient.
Par ailleurs, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient doubler d'ici 2024 leur aide publique aux pays en développement pour faire face au changement climatique par rapport au niveau enregistré 10 ans plus tôt. Le département d'État américain a justifié cet objectif par la nécessité de tourner la page de la forte chute des financements internationaux fournis par les États-Unis sur le climat pendant la présidence de Donald Trump. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a rappelé que le gouvernement américain souhaitait abonder l'an prochain le fonds vert pour le climat de 1,2 milliard de dollars supplémentaires. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Cameroun, l'agence de promotion des PME a sélectionné 30 entreprises en agroalimentaire et cosmétiques dans le cadre de son programme Campac Quality. L'objectif est d'améliorer l'accès des produits locaux au marché intérieur et extérieur. La PME accompagne les bénéficiaires dans l'amélioration de leur packaging afin de permettre une meilleure visibilité des produits. Au Nigeria, le Sénat a approuvé un plan d'emprunt de 2,7 milliards de dollars pour relancer l'économie. Le plan prévoit 2 tranches empruntées auprès de la Banque mondiale, de l'Export-Import Bank du Brésil et de l'allemande Deutsche Bank. L'économie nigériane souffre d'une croissance ralentie en raison de la faiblesse des revenus pétroliers qui constituent 90% des ressources en devise du pays. Les forêts tropicales d'Afrique centrale sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques et aux activités humaines, souligne une étude publiée dans la revue Nature. Les chercheurs se sont basés sur des données répertoriant plus de 6 millions d'arbres répartis sur 190 000 parcelles au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon et dans les deux Congos. Ils ont ainsi pu établir une cartographie prenant en compte près de 200 espèces d'arbres.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les pays africains qui prennent part à l'épreuve du football des Jeux Olympiques de Tokyo sont situés sur leur groupe. Chez les hommes, l'Égypte, championne de la CAN 2019 des moins de 23 ans, est logée dans une poule relevée avec l'Australie, l'Argentine et l'Espagne. La Côte d'Ivoire fera face au Brésil, tenant du titre, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite dans le groupe D. Logé dans le groupe A, l'Afrique du Sud se mesurera aux pays hôtes, le Japon, à la France et au Mexique chez les femmes. La Zambie, seule représentante africaine, jouera la Chine, le Brésil et les Pays-Bas. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, insiste sur l'importance d'une Super Ligue européenne. Bagassi Koura.
Nous pensons que c'est une nécessité, soutient le président du club catalan, assurant que les membres de la Super Ligue restent ouverts à un dialogue avec l'UEFA. Il s'agit de la première déclaration publique du président du FC Barcelone depuis l'annonce dimanche du projet de Super League, torpillé 48 heures plus tard par le retrait de 10 clubs sur les 12 au départ. La raison pour laquelle il y a eu cette proposition existe toujours. On manque de ressources, on fait d'importants investissements et on paie des salaires très importants. Et si l'on veut que le football soit un spectacle qui découle de mérites sportifs et que l'on maintienne ce niveau de qualité, les dirigeants de l'UEFA doivent prendre en considération ce que nous avons proposé, affirme Laporta. Il a confirmé que ce sont les sociaux, les supporters, les actionnaires qui auront le dernier mot quant à la participation du Barça à une éventuelle future Super League. Pour sa part, Florentino Pérez, président du Real Madrid et premier président de la Super League, a fait savoir que le projet est en stand-by.
Basketball, les New York Knicks ont profité des 40 points de Julius Randle pour battre Atlanta en prolongation 127-117 et s'installer seul à la 4e place à l'Est, juste devant leur victime du soir. À Tampa, où Toronto joue cette saison, les Brooklyn Nets ont été battus 114-103 par les Raptors. Deuxième de la conférence Est, les joueurs de Steve Nash ne se sont toutefois pas fait distancer par le leader Philadelphie, dominé sur son parquet par Phoenix 116-113. À l'Ouest, les Suns restent deuxième devant les Clippers, tombeurs de Memphis, 117-105 et Denver, plus fort que Portland, 106-105. La tête de la conférence est toujours occupée par le Jazz, encore intraitable à Houston, 112-89.
Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. Plusieurs chefs d'État africains ainsi que le président français Emmanuel Macron feront le déplacement à N'Djamena pour assister aux funérailles d'Idriss Déby. L'opposition tchadienne condamne la mise en place d'un conseil militaire de transition, alors que sur le plan international, il n'y a pas encore de position ferme sur la prise du pouvoir par l'armée et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint le politologue Évariste Garlem Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Pour la France, je dirais qu'il y a deux poids, deux mesures. Récemment au Mali, ils ont demandé à ce qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Donc les Tchadiens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui la France ne peut pas exiger la même chose aux militaires. Je me rappelle en 1990, lorsque Senabré avait quitté N'Djamena, c'était les militaires français qui avaient assuré la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les Tchadiens sont quand même surpris que le président de l'Assemblée soit abandonné à son triste sort. Il a été convié, sinon invité par les militaires à la présidence. Il aurait dit qu'il est malade, mais ça n'a pas été devant les médias parce que on attendait à ce que, après l'annonce dans les médias du décès du chef de l'État, que le président de l'Assemblée nationale puisse se prononcer aussi devant les journalistes. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est cet argument-là que la France reprend à son compte.
Donc pour vous, c'est un peu l'aspect stabilité, l'aspect sécurité qui a poussé la France à accepter cet état de fait.
Oui, mais c'est bien cela. La France trouve normal que son allié stratégique, qui est d'abord le président Déby, ensuite aussi le Tchad, cet allié-là soit resté entre les mains des militaires, que le Tchad reste entre les mains des militaires, d'accord, mais les Tchadiens ne comprendront pas toujours pourquoi c'est le fils qui prend la place de son père. De surcroît, il y a des militaires qui peuvent assurer la transition. Pourquoi choisir le fils en lieu et place du père?
On ne voit pas non plus d'opposition forte de la part de l'Union africaine ou même de la communauté des États d'Afrique centrale.
Oui, vous avez entièrement raison de ce côté. Cette Union africaine qui refuse la prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles n'a pas réagi, vous avez entièrement raison. C'est ce silence-là qui inquiète, qui plus est, cette organisation est dirigée par un compatriote qui est resté jusqu'à là silencieux comme une carpe. Dirait-il que c'est le propre des Africains, ils attendent que la France se prononce, effectivement, comme la France est en train de prendre position pour le conseil militaire de transition, vous verrez que tout le monde va s'aligner dans cette voie-là, et puis l'Union africaine fera la même chose, la francophonie, et puis cette organisation sous-régionale suivront. Là, vous avez vu déjà la divergence entre les États-Unis et la France. Donc,
et pour vous, où est-ce qu'on va après tout cela?
Mais où est-ce qu'on va? C'est un saut dans l'inconnu.
C'était Évariste Garlem Toldé, joint à N'Djamena. Peu de pays ressentent plus vivement la perte du président tchadien Idriss Déby que l'ancienne puissance coloniale, la France. Paris a longtemps considéré Déby comme un allié clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. À présent, certains observateurs affirment que sa mort apporte de l'incertitude dans cette campagne et les espoirs de la France d'un éventuel retrait de sa force Barkhane dans la région. De Paris, voici le reportage de Lisa Bryant, Yacouba Ouedraogo pour le récit.
La perte d'un ami courageux. C'est ainsi que le bureau du président Macron a décrit la mort d'Idriss Déby Itno. Une déclaration reprise par la ministre française de la Défense, Florence Parly. Elle a déclaré que le défunt chef de l'État tchadien a été un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, notant que le Tchad a déployé récemment un nouveau bataillon de 1200 membres dans la zone dite des trois frontières, à haut risque chevauchant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Certains experts se demandent maintenant si cette force sera diminuée, car le Tchad est confronté à de multiples sources d'instabilité chez lui. Au cours des 30 ans du règne de Déby, la France et d'autres partenaires occidentaux le considéraient comme un allié militaire clé dans la région. Ils étaient prêts à faire des affaires malgré ses pratiques antidémocratiques. Les analystes qualifient aujourd'hui la mort de Déby comme un coup particulièrement dur pour Paris. Antoine Glaser est un analyste de la géopolitique.
C'était vraiment quelque part l'homme de la France dans la région qui a les seules troupes aguerries en soutien à l'opération Serval puis Barkhane. Idriss Déby, il était quand même quasiment de droit divin au Tchad. Donc c'est un coup dur en fait pour toute la stratégie militaire d'Emmanuel Macron dans la région pour pas que le Tchad s'effondre.
Andrew Leibovitch est chercheur en politique africaine au sein du groupe de réflexion au Conseil européen des relations extérieures.
En particulier depuis l'intervention au Mali en 2013, le Tchad a été l'un des principaux partenaires antiterroristes de la région pour la France. Et même avant cela, la France a été un partisan assez ferme d'Idriss Déby.
Le Tchad a été le plus grand contributeur de troupes à la force du G5 Sahel, à laquelle la France s'associe pour lutter contre l'insurrection djihadiste dans la région. L'opération française Barkhane a son siège à N'Djamena, la capitale tchadienne. Parmi les pays du G5 Sahel, comprenant également la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les soldats tchadiens sont considérés comme les plus aguerris et les plus professionnels, ceux envoyés pour les missions les plus difficiles. La mort de Déby pourrait changer cela, selon Andrew Leibovitch.
Nous ne savons pas comment cela va bouger en ce moment. Ce que cela fait, c'est de mettre beaucoup plus d'accent sur les autres pays du G7. Je pense que cela va probablement renforcer la tendance déjà forte à rechercher la stabilité ou une sorte de stabilité à court terme par rapport à toute autre chose.
Les analystes affirment que le soutien militaire entre la France et le Tchad est allé dans les deux sens. Au fil des ans, Paris a aidé Déby à faire face à des insurrections armées. Cela inclut celle de 2019, lorsque les forces françaises ont mené des frappes aériennes sur une offensive rebelle en provenance de la Libye.
2006, 2008, encore 2019, où Emmanuel Macron ordonne le pilonnage d'une colonne qui approche dangereusement de N'Djamena.
Le journaliste Vincent Hugueux a souligné que l'aide de Paris était devenue essentiellement une doctrine française de sauver le soldat Déby. Des rapports citant une annonce du responsable militaire indiquent que Déby est mort des suites de blessures sur le champ de bataille subies lors d'une visite aux troupes lors de la dernière insurrection de ce type. Le Front pour le changement et la concorde au Tchad, ou groupe rebelle FACT, dit maintenant qu'il marchera sur N'Djamena. Il rejette le nouveau conseil militaire de transition du pays mis en place après la mort de Déby et présidé par son fils Mahamat Déby Itno, un général 4 étoiles.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Kenya, les grossesses d'adolescentes sont montées en flèche pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19 à Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique. Les enseignants et parents ont cherché un moyen d'améliorer la vie des jeunes filles en créant des activités pour les jeunes, dont la formation de clubs de football féminin. Aujourd'hui, des joueuses de Kibera sont sur le point de rejoindre la ligue professionnelle. Un reportage de Brenda Moulinia à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
Au cœur de Kibera, deux équipes de football féminines, les Undugu Queens et les Queen Starlets, s'affrontent en match amical. Elles ont été formées alors que les autorités kenyanes affirment que les grossesses chez les adolescentes ont bondi d'au moins 40% pendant les mesures liées à la pandémie de Covid-19. Le fondateur et entraîneur du Undugu Queens Club, Laban Ouma.
Ce programme protège les filles des maux de la structure sociale dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un environnement fortement affecté par la toxicomanie. Nous avons aussi des grossesses précoces.
Winfriedia Niaboke a rejoint les Undugu Queens fin 2020 après que sa meilleure amie Ruth soit tombée enceinte alors que les écoles étaient fermées en raison de la pandémie.
She refused to join us in playing football. Elle a refusé de se joindre à nous pour jouer au football. Elle a décidé de jouer avec des garçons. En ce moment, elle est enceinte. J'ai décidé de me tenir occupée avec le football. Je savais que cela m'empêcherait de tomber dans le même piège.
Les Undugu Queens s'entraînent tous les jours de la semaine et organisent des matchs tous les week-ends. Les parents des joueuses affirment que le calendrier exigeant de cette discipline sportive aide à maintenir leur fille en bonne santé et en sécurité. Rose Nguli soutient sa fille en ce sens.
Nous sommes très reconnaissants quand elle joue au football, car ses enfants ne quitteront pas le terrain pour s'exposer à un environnement destructeur.
Le club de football propose également un programme de mentorat pour les travaux scolaires, ainsi qu'un accès à des produits de soins menstruels. Mais certaines joueuses se retrouvent encore enceintes, comme Lavine Ondaki.
J'ai arrêté de jouer au football après être tombée enceinte. Je n'ai pas pu continuer pendant ma grossesse. Maintenant que le bébé est un peu plus âgé, je peux à nouveau jouer.
Le travail acharné de l'équipe semble toutefois porter des fruits dans l'ensemble. Les Undugu Queens devraient rejoindre la Ligue professionnelle de football féminin du comté de Nairobi après la levée de la suspension des compétitions sportives pour cause de pandémie.
Le meurtre par la police de George Floyd, un Africain-Américain de 46 ans, à Minneapolis l'année dernière, a déclenché des manifestations de Black Lives Matter dans le monde entier. La condamnation prononcée mardi contre l'ancien policier Derek Chauvin a été bien accueillie dans de nombreux pays. Mais selon les militants pour l'égalité, beaucoup reste à faire. Reportage à Londres d'Henry Ridgewell, récit Rosine Mounezero.
Soulagement, angoisse, douleur. Le verdict unanime de culpabilité prononcé contre le meurtrier de George Floyd, l'ancien policier Derek Chauvin, a été accueilli avec un puissant mélange d'émotions parmi la foule rassemblée sur les lieux de son meurtre à Minneapolis. Écoutons Michel Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Comme le jury l'a reconnu, la preuve dans cette affaire était limpide. Tout autre résultat aurait été une parodie de justice. Mais pour d'innombrables autres victimes d'ascendance africaine et leurs familles aux États-Unis et dans le monde, le combat pour la justice continue.
Au Parlement britannique, mercredi, le Premier ministre Boris Johnson a aussi rendu cet hommage.
Le verdict de la nuit dernière à Minneapolis a rendu justice à la famille et aux amis de George Floyd. Et je sais que les pensées de toute la Chambre vont à leur endroit.
Le meurtre de George Floyd a déclenché des manifestations de Black Lives Matter dans le monde. Le militant britannique Lawrence Ho a aidé à organiser des manifestations à Bristol, en Angleterre.
Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à célébrer en ce moment. C'est juste le sentiment qu'il a fallu une campagne mondiale et des villes à brûler juste que justice soit rendue. C'est un peu engourdi aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'excitation à propos d'une décision qui aurait dû être la décision logique.
Le gouvernement français a reconnu l'importance mondiale de la condamnation. Écoutons son porte-parole, Gabriel Attal.
Le drame épouvantable qui a frappé M. Floyd a provoqué une émotion bien au-delà des frontières des États-Unis. Et donc évidemment que cette décision de justice, elle a une résonance bien au-delà des frontières des États-Unis. Et c'est ce que je veux dire et saluer ce matin.
En Afrique du Sud, les habitants de Johannesburg ont déclaré à la VOA qu'ils se félicitaient du verdict de culpabilité contre Derek Chauvin. C'est le cas de l'étudiant Thomas Dobear.
Justice was served. Justice a été rendue, mais je ne pense pas que cela soit la bonne façon de procéder. Il devrait y avoir différentes manières d'empêcher que cela se produise à l'avenir.
Toujours en Afrique du Sud, Youssouf Arrington Katrada a également exprimé sa joie.
Heureux que justice ait été rendue, je pense que cela va à n'importe qui, dans n'importe quelle partie du monde, dans n'importe quel pays.
La justice a servi d'abord et avant tout à la famille de George Floyd, mais aussi à de nombreuses personnes dans le monde qui partagent leur douleur et leur colère.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.